Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'Union européenne lance de nouvelles initiatives totalisant 25 millions d'euros pour soutenir les personnes vulnérables au Liban et pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce sera jeudi, la 11e séance du Parlement libanais consacrée à l'élection présidentielle. Les derniers tirailleurs sénégalais pourront toucher le minimum vieillesse dans leur pays d'origine, décision du gouvernement français. Gros plan dans votre journal sur ces anciens militaires enrôlés dans l'armée française avec l'historien, spécialiste notamment de l'histoire coloniale, Gilles Manseron. Le Parlement israélien a voté un projet de loi visant à renouveler l'extension du droit pénal israélien aux colons qui vivent en Cisjordanie occupée. Des hommes armés ont enlevé plus de 30 personnes dans le sud du Nigeria. C'est arrivé lors de l'attaque d'une gare. On ne touche pas à Zinedine Zidane. Le président de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, s'insurge contre le nouveau dérapage de Noël Le Graët, qui a violemment critiqué l'ancien numéro 10 de l'équipe de France de football. Vous entendrez Mohamed Kaki. L'Union européenne accorde 25 millions d'euros pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Liban, une annonce de son représentant dans le pays, Ralph Tara. Objectif, soutenir les personnes vulnérables face à la crise économique. L'Union indique que ces fonds fourniront une aide directe à 7245 familles libanaises pauvres inscrites au programme national de soutien aux familles les plus pauvres, programme mis en œuvre par le gouvernement en coopération avec le programme alimentaire mondial. La vacance présidentielle au Liban. La 11e séance du Parlement libanais consacrée à l'élection présidentielle aura lieu jeudi prochain. Le Liban est sans président depuis l'expiration du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Des dizaines de proches de victimes de la double explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth se sont rassemblés ce mardi matin devant le palais de justice de la capitale libanaise. Un rassemblement pour réclamer l'avancée de l'enquête sur ce dossier. D'anciens tirailleurs sénégalais, des soldats recrutés par l'armée française vont pouvoir rentrer définitivement dans leur pays d'origine tout en continuant à percevoir leur minimum vieillesse, une décision du gouvernement français. Ces personnes étaient jusqu'ici obligées de vivre au moins 6 mois de l'année en France pour percevoir ce revenu de 950 euros. Créé sous le Second Empire et dissous au début des années 1960, le corps des tirailleurs sénégalais rassemblait des militaires nés dans les anciennes colonies françaises en Afrique et enrôlés dans l'armée française. Nous y revenons avec l'historien spécialiste notamment de la période coloniale, Gilles Manseron.
Ce corps des tirailleurs dit sénégalais parce qu'ils ont été recrutés dans l'ensemble des pays de l'Afrique occidentale française, de l'AOF de l'époque, dans l'Empire, à l'époque de l'Empire constitué à la fin du 19e siècle et qui s'est prolongé jusqu'aux indépendances. Ils venaient de ces différents pays, de ce qu'on appelait le Soudan, à l'époque est devenu le Mali, de ce qu'on appelait la Côte d'Ivoire déjà, et d'autres provinces constitutives, si je puis dire, de cet empire colonial, de l'AOF et de l'AEF aussi, de l'Afrique équatoriale française, comme le Gabon ou le Congo, dit Congo-Brazzaville. Donc ils venaient d'un peu partout, on les appelait tirailleurs sénégalais parce qu'ils ont été fondés à Dakar. Le corps a été fondé à Dakar par un général, Gérald Federbe, qui était gouverneur du Sénégal. Et ils ont été employés par la suite, à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle, dans les différentes conquêtes coloniales de l'Afrique. Ce qu'on a appelé, par exemple, la mission marchand qui était partie de Dakar et qui avait pour mission d'aller jusqu'à Djibouti, eh bien, était constitué pour l'essentiel de ces Africains au statut de tirailleurs ou de porteurs ou d'auxiliaires divers. Donc, ils ont servi beaucoup, les tirailleurs, à la conquête des autres pays qui ont constitué l'Empire colonial français en Afrique et ailleurs.
Lors de la Première Guerre mondiale, ils étaient environ 200 000 qui se sont battus sous le drapeau français.
Oui, on considère qu'il y en a eu 200 000 de mobilisés. La plupart ont été envoyés au front en 1916 et en 1917, mais ils en ont été souvent, pour ce qui est des tirailleurs dits sénégalais, donc d'Afrique subsaharienne, ils ont été souvent retirés parce que les pertes parmi ces troupes étaient extrêmement nombreuses. C'était dû à l'usage qui en a été fait, hein, et notamment lors de la bataille dite de Craon pour reconquérir ce point occupé par les Allemands qu'on a appelé le plateau de Californie et qu'il fallait essayer de reconquérir. C'était le général Nivelle qui avait, lors de cette bataille, décidé d'employer à plein les tirailleurs et à ce moment-là, les pertes ont été extrêmement nombreuses. Et donc, ils ont été, pour la plupart, étant donné leur faible résistance aux maladies aussi qui les frappaient, et dans des conditions de froid et de conditions météorologiques extrêmement dures, ils ont été souvent retirés et envoyés dans ce qu'on appelait des camps d'hivernage dans la moitié sud de la France, soit du côté de la Gironde, soit du côté du Var et du pourtour méditerranéen. Et ils ont été un peu retirés à la fin de la guerre, retirés pour ces lieux où la mortalité est restée encore très, très, très forte. Et où d'ailleurs, épisode peu connu, ils ont été aussi un peu employés comme cobayes lors de différentes expériences de tests de vaccins qui étaient mis au point par les services sanitaires de l'armée française. Mais la mortalité a été très importante encore malgré le fait qu'ils étaient retirés du front.
Et vous évoquiez leur rôle durant les différentes conquêtes coloniales. Les tirailleurs sénégalais, qui vous l'avez souligné, ont notamment combattu en Indochine et en Algérie.
Oui, parce qu'ils ont été employés, les tirailleurs, dans les conquêtes d'avant 1914, bien entendu, pour constituer l'Empire. Et ils ont été employés après la Seconde Guerre mondiale dans les troupes qui réprimaient les révoltes des territoires qui aspiraient à l'indépendance. À partir de mai-juin 1945, il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes du Constantinois en Algérie. Hein, et là, dans la répression, les tirailleurs dits sénégalais ont été aussi employés par l'armée française pour rétablir l'ordre avec tout ce que cela comportait de violence. En 1947, ils ont été employés aussi à Madagascar, et les Malgaches en gardent un souvenir très très fort de cette répression par les troupes de tirailleurs subsahariens. Et puis, ils ont été aussi envoyés en Indochine, dans la guerre française d'Indochine, qui s'est surtout déroulée entre, disons, 49 et 54, les accords qui ont mis fin à la guerre française d'Indochine. Voilà. Donc, ils ont été employés aussi dans ces différents espaces. Je voudrais aussi rappeler à cette occasion que les tirailleurs maghrébins, hein, qui ne sont pas le sujet du film « Tirailleurs de Marcy », mais qui ont été au centre de celui de Rachid Bouchareb, indigène, pour ce qui est de la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ont été dans les deux guerres mondiales plus nombreux que les tirailleurs dits sénégalais subsahariens. Les effectifs sont supérieurs et l'engagement dans les opérations militaires est plus important, bien que ce qui a le plus frappé l'imaginaire des Français dès l'époque de la guerre de 14, hein, c'est la présence de ces Africains noirs qui étaient avec des couleurs bariolées de leur uniforme ou de leur couvre-chef, des éléments d'exotisme qui ont retenu l'attention des Français.
Le gouvernement français qui a pris une décision, ces personnes étaient jusqu'ici obligées de vivre au moins 6 mois de l'année en France pour percevoir leur minimum vieillesse. Ce ne sera plus le cas. Comment vous accueillez cette mesure?
Eh bien, écoutez, c'est une mesure qui était demandée depuis fort longtemps, y compris depuis la sortie du film indigène par des associations diverses qui réclamaient de la justice dans la rémunération des pensions des tirailleurs maghrébin ou subsaharien. Donc c'est une vieille revendication qui remonte à une vingtaine d'années, je dirais. Alors, l'État a annoncé cela récemment, comme si c'était une grande mesure importante et qui va apporter un mieux-être à beaucoup de personnes. En fait, si on regarde le détail de la mesure en question, elle ne concerne, par rapport à cette obligation de résider au moins 6 mois sur le territoire français, qui serait dispensé de le faire, eh bien, que ceux qui percevaient déjà le RSA. Et donc, ça représente une quarantaine de personnes. Et disons que, en ne prenant qu'en 2023 une telle mesure, d'abord, l'État français a joué la montre, a attendu qu'il disparaisse. Il n'y a plus de tirailleurs de la Première Guerre mondiale, ou d'auparavant, bien entendu. Ils sont tous morts, ceux du film dans Marcy, par exemple. Eh bien, d'une part, il y a eu cette temporisation, et d'autre part, il y a eu cette restriction à l'obtention préalable du RSA qui réduit à peu de choses cette mesure qui a surtout un effet d'annonce, à mon avis.
Cette mise en lumière des tirailleurs dits sénégalais, notamment via le cinéma, quel impact cela a, notamment sur l'opinion française ?
Je pense que ça fait progresser la connaissance de cet épisode avec des grosses lacunes, parce qu'il y a toujours cette polarisation sur les Noirs d'Afrique subsaharienne, mais je vous disais que les Maghrébins ont été plus nombreux numériquement dans la Première Guerre mondiale, comme dans la fin de la Seconde, plus nombreux que les tirailleurs dits sénégalais. Il y a un progrès de la connaissance avec de grosses lacunes. De ce point de vue-là, on peut penser que l'opinion française est mieux au courant de ce qui s'est produit, de cet appel à une main-d'œuvre éloignée de chez elle et employée pendant une très longue durée. Donc, ça fait connaître tous ces épisodes-là, mais il y a encore beaucoup de lacunes dans la connaissance de l'opinion publique et beaucoup d'affichage du côté des autorités françaises.
Gilles Manceron, historien, spécialiste notamment de la période coloniale. Le Parlement israélien a voté un projet de loi visant à renouveler l'extension du droit pénal israélien aux colons qui vivent en Cisjordanie occupée. C'était le premier projet de loi soumis au vote des élus par le nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire d'Israël. En vigueur depuis la guerre des Six Jours de 1967 et l'occupation israélienne de la Cisjordanie, cette loi qui stipule que les quelques 475 000 colons en Cisjordanie bénéficient des mêmes droits que les citoyens vivant sur le territoire d'Israël est ratifié tous les 5 ans par le Parlement. Des hommes armés ont enlevé plus de 30 personnes dans le sud du Nigeria. C'est arrivé lors de l'attaque d'une gare. Les assaillants ont ouvert le feu avant d'enlever les passagers qui attendaient un train pour Wari, plus au sud du pays. La répression des manifestations en Iran et cette vive condamnation du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Téhéran, dit-il, utilise les condamnations à la peine de mort contre les manifestants pour effrayer la population iranienne et faire taire la contestation, ce qui confine au meurtre d'État, selon ses mots. Le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail souligne que la Tunisie traverse une profonde crise au niveau socio-économique et politique qui menace les acquis des citoyens et leurs droits économiques et sociaux. Samir Chefi affirme que l'UGTT restera toujours aux côtés du peuple et défendra l'État tunisien. Et il ajoute que la centrale syndicale ne restera pas les bras croisés devant la crise que traverse actuellement la Tunisie. On ne touche pas à Zinedine Zidane. Le président de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, s'insurge contre le nouveau dérapage de Noël Le Graët, qui a violemment critiqué l'ancien numéro 10 de l'équipe de France de football. Le président de la Fédération française de football a présenté ses excuses, mais de nombreuses personnalités réclament sa démission. Mohamed Kaki.
C'est un passage à l'acte inexcusable, totalement inexcusable, parce que il a touché à une personne, Zinedine Zidane, qui est un homme de paix, qui est notre en commun de la République française, qui, à travers ces insultes et cette grossièreté du président de la Fédération de football française, eh bien, il insulte tous les Français, il nous insulte tous, et c'est grave parce que le football, c'est quoi ? Ce sont des millions de jeunes, des enfants, nos enfants qui aiment le football, qui vont faire du football, et il y a un acte éducatif très très fort. Alors qu'est-ce que envoie comme message M. Grèce? Eh bien c'est un message de grossièreté, c'est-à-dire tout ce que nous condamnons au quotidien, tout ce que les éducateurs sportifs dans les clubs de foot amateurs, dans nos villes, et qui à chaque instant tentent de faire des choses positives, et là s'en prendre à Zinedine Zidane, qui est vraiment, je dirais, un homme de paix, un homme de consensuel, un homme qui jamais ne dira un mot plus gros que l'autre, eh bien, s'en prendre comme ça, de manière injuste, c'est vraiment terrible. Et donc, nous exigeons eh bien, sa démission immédiate, parce que lorsqu'on viole les règles de la République de cette manière aussi grave, eh bien, il faut démissionner, parce que là, il s'est lâché complètement. C'est une institution importante, hein. C'est la Fédération de football doit être exemplaire, et encore plus son président, parce qu'il y a des processus d'identification. Et donc là, M. Grèce a franchi la ligne rouge, il a grillé un feu rouge de manière vraiment grossière. Et vraiment, c'est dommageable. Et c'est dommageable pour l'image de la France à l'étranger également, parce que insulter un homme de paix comme Zinedine Zidane, qui a quand même apporté la Coupe du Monde, qui a contribué de par sa présence avec une identification collective très positive auprès de nos jeunes, auprès des gens, il fait l'unanimité. C'est un homme important, et je dirais que là, on touche le joyau de la France, et on n'a pas le droit de toucher le joyau de la France. On ne touche pas Zinedine Zidane, parce que Zinedine Zidane représente cette belle France. Parce que c'est qui Zinedine Zidane? C'est un enfant d'ouvrier, c'est un enfant des classes populaires qui a réussi, et qui a réussi grâce au travail, grâce à l'abnégation, et vraiment, et il faut le saluer, il faut lui dire merci tous les jours, parce que c'est quand même grâce à lui qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à lui de manière positive, et dans la construction, dans l'espoir, que la France, eh ben, elle est à nous tous et elle est belle.
Le président de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, il répondait à Loïc Barrière. Le gardien Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Le capitaine des champions du monde de 2018 et joueur le plus capé de l'histoire de France de football en a fait part dans un entretien au quotidien sportif L'Équipe. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Nicolas Maillère-Rossignol, maire de Rouen, candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, émission présentée par Loïc Barrière. Un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.